Les services de l'information de CJSO en collaboration avec Lucie Del Parizeau, Meubles André Beaulieu et Contact Affaires présentent On a des choses à dire avec Jean Lemay.
C'est Sylvain Rochon qui est là en remplacement de Jean Lemay, mais pour la dernière fois, Jean sera de retour à ce microphone jeudi prochain. Se déroule jusqu'à samedi la 31e semaine nationale de prévention du suicide sous le thème « Parler du suicide sauve des vies ». C'est, je l'espère, ce que nous allons participer à faire ce midi, sauver des vies, car on a des choses à dire sur le suicide jusqu'à 13h, en compagnie de Pierre Bisson, administrateur et président du Centre de crise et de prévention du suicide de la Traversée de la région de Sorel-Tracy, ici, Louise Niquette, endeuillée de son fils, Denis Perron, endeuillé de son frère, Francis Saint-Martin Rochon, intervenant à la Traversée, et Marilyn Saint-Arnaud, directrice générale de l'organisme. On parle du suicide pour sauver des vies après la pause.
CJSO 101.7 FM fête ses 75 ans. Et pour souligner l'occasion, nous vous proposons nos capsules historiques afin de revivre cette épopée.
Au début des années 1990, l'équipe de CJSO s'enrichit de plusieurs membres, dont le regretté Yves-Étienne Banville. Paul Leblanc, qui sera conseillère aux ventes jusqu'en décembre 2019. Isabelle Michaud, Yves Larouche, Isabelle Vachon, Jacques Gauthier, puis Jérémy Rainville, qui, avec son groupe Les Abuseurs Publics, fait des capsules humoristiques pendant l'émission Les Oreilles Musclées. Marie-Thérèse Thibault, rédactrice publicitaire et responsable du script-routage de 92 à 2013. Le populaire animateur et producteur de RDS, Yannick Lévesque, entre à CJSO en 1993 et y restera jusqu'en 2008. Il se rappelle, en 2015, Claude Saint-Germain m'a fait confiance. J'ai animé, entre autres, Les Oreilles Musclées avec Hugues Chevalier et d'autres collaborateurs. On allait couvrir les matchs avec Jean Lemay et je me souviens aussi des soirées électorales avec Reynald Bergeron. Sur le plan administratif, deux changements marquent la fin de cette époque. Claude Saint-Germain décide de quitter la station en 1992 et vend ses parts à ses partenaires. Et succédant à Louis Delisle, Normand Niquette sera directeur général de 93 à 95. CJSO, qui amorce le virage de l'informatique, éprouve à nouveau des problèmes financiers et le groupe Pram met la station en vente.
Ici David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Je vous invite à suivre mes recommandations dans la capsule « Les conseils Brunet » sur les ondes de CJSO. Je vous parle évidemment de santé et de plein de trucs qui peuvent vous simplifier la vie. Les conseils Brunet, c'est aussi l'occasion de répondre aux questions les plus posées et d'y répondre avec précision. C'est une source d'informations pharmaceutiques condensée en 5 minutes et ce, tous les jeudis à 17h15. C'est un rendez-vous ce jeudi pour les conseils Brunet.
Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Lucie Del Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Lucie Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec.
Pour aujourd'hui dans le Grand Sorel-Tracy, dégagé pour la plus grande partie de la journée, maximum près de zéro. On devrait ressentir avec le refroidissement éolien près de moins 7. Pour ce soir et cette nuit, ça reste dégagé, minimum près de moins 8 et on ressentira moins 12. Demain, de la neige, de la pluie, accumulation aux alentours de 2 cm.
101.7 FM.
De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
C'est depuis le 31 janvier et jusqu'au 6 février, la Semaine nationale de prévention du suicide. On prête foi au thème de cette semaine à l'effet que parler du suicide sauve des vies. On en parle d'abord avec le président du conseil d'administration de la Traversée. Pierre Bisson, bon midi.
Bon midi à vous.
Est-ce qu'il y a longtemps que vous présidez l'organisme, Monsieur Bisson?
Moi, je préside l'organisme depuis septembre 2016.
Ça passe vite. Et vous êtes vous-même, à ce qu'on m'a dit, un endeuillé du suicide. Vous avez perdu quelqu'un par suicide.
Oui, Oui, absolument. Écoutez, ma venue à la traversée est un peu un fruit du hasard. Disons qu'en 2014, j'ai un de mes cousins quand même assez proche qui s'est enlevé la vie en novembre. Donc, évidemment, personne ne le voit venir. On sait que des fois, les personnes peuvent se sentir un peu dépressifs. Bon, passe un mauvais coton, mais tu sais, personne n'a le réflexe de poser de questions. Aller plus loin. C'était un cousin que tu parles, mettons, au mois et demi, deux mois, disons. Et nous, la famille, c'est une famille quand même qui s'est serrée. On fait beaucoup d'événements sportifs dans l'année. On se regroupe, party le jour de l'an et tout et tout. Bon. Et là, quand que Jean-Luc a passé à l'acte, on a tous été sous le choc, évidemment. Donc, pendant le service en novembre, la photo est là, l'urne est là, et maintenant on me demande, parce que moi je suis le plus vieux des cousins des deux côtés, on me demande, Pierre, veux-tu dire quelque chose en avant, parce que tout le monde a l'affaire de cette adresse. Et en allant en avant, compte des anecdotes sur Jean-Luc, et une bulle nous passe, à chaque année, nous on fait une grosse journée de golf là, entre cousins, c'est très festif, et je dis, bon, ben l'année prochaine, quand on va faire notre journée, ben on va se souvenir de Jean-Luc, on va faire un événement de famille, on va appeler ça le Mion Jean-Luc Bisson, puis on va se charger 10-20 piastres de plus, puis on va faire notre part de la société, puis on remettra les fonds à l'organisme suicide. Fait, donc, c'est parti tout bonnement comme ça.
Puis cette initiative-là, là, tu sais, d'un tournoi de golf au profit d'un organisme qui prévient le suicide, ça vous a aidé à faire votre deuil de la mort tragique de ce cousin-là?
Ben oui, parce que on se rend compte après, puis là, évidemment, l'année d'après, on fait l'organisation du tournoi et qui les premières personnes qu'on parle pour faire ce petit tournoi-là, c'était vraiment un tournoi avec la famille et des amis qui étaient un peu au courant. Donc, ça a été une occasion de se rassembler l'année d'après, mais pour une cause et à la mémoire de Jean-Luc. Donc, ça a commencé comme ça. Et je pense que ça a été beaucoup, je vous dirais, bénéfique pour moi, évidemment, comme cousin, là, mais surtout pour la mère, le père et frère et sœur, qui la première édition était très émotive, je dois vous dire, quand on est rendu au souper, c'était très émotif, mais je pense que ça a permis un deuil de en parler et évidemment, on avait invité les gens de la traversée à participer à l'époque. Ça avait beaucoup. Moi, je pense que ça a beaucoup aidé et c'est devenu un événement. Cette année, ça aurait été la 6e édition, évidemment, mais ça a été à cause de la pandémie. On était obligé de faire les choses différemment. Mais oui, je pense que ça c'est bien. Et suite à ce tournoi-là, évidemment, j'ai été approché par l'ancien président de l'époque, Pierre Morville, qui m'a dit, Pierre, j'aimerais beaucoup, beaucoup ça, que tu viennes faire partie du CA de la traversée. Et comme moi, je n'avais jamais fait partie d'un CA de ma vie, communautaire qu'on a moins ça et tout, bon ben, j'ai dit, va aller voir ça. Puis, à la première séance, là, je regardais, évidemment, on parle des problèmes, des choses à faire, puis moi, ben, la première séance, j'étais seulement là pour écouter, et j'en revenais pas des problèmes face à que la traversée rencontrait, que ce soit pour le financement, pour l'organisation, les événements et tout.
Je voulais justement vous amener là, Pierre. Êtes-vous bon pour me tracer la petite histoire du centre? Là, je vous prends un peu par surprise. Moi, j'ai un vague souvenir là, d'un organisme qui s'appelait, je pense, Telle Aide, que dirigeait à Sainte-Anne-de-Sorel, puis pas si loin d'où sont vos bureaux, la traversée, une dame Thérèse Lévesque. Est-ce que cette ligne d'écoute, c'est un peu l'ancêtre de la traversée?
Sûrement, mais je serais mal placé de vous en parler parce que quand je suis arrivé là, je ne connaissais pas du tout les antécédents et tout. Donc,
ah ben, c'est moi qui en aurais parlé. C'est pratique d'être vieux.
Oui, c'est ça.
C'est une ressource, la traversée, constamment ouverte, 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Puis là, j'arrive sur ce que vous abordiez. C'est certainement un tour de force humain et financier de faire fonctionner ça. Qui finance la traversée?
Ben, la traversée, évidemment, les gouvernements, il y a des programmes d'aide qui financent et aident à soutenir ces ressources-là. Le PSOC, Marilyn pourra plus vous en parler tantôt parce qu'elle nage vraiment là-dedans. Mais évidemment, on compte beaucoup pour le budget est fait en fonction de l'argent qui rentre. Donc, c'est pas évident. Parce que là, faut que tu dises, OK, comme vous savez, on a un centre d'hébergement. Donc, bon, ben là, il y a deux chambres. Ça prend des intervenants là, jour et nuit. Puis, on compte beaucoup sur essayer de faire des événements pour aller chercher des sous pour aider à rajouter des services ou complètement boucler le budget. C'est pas
okay.
évident.
Il y a des levées de fonds. Il n'y a pas juste votre tournoi de golf familial. Il y a d'autres levées de fonds.
On a quand même certains donateurs qui donnent. Il faut faire des événements quelquefois dans l'année pour essayer d'aller chercher des sous parce que seulement sur, les subventions gouvernementales, on ne pourrait pas y arriver. Puis, la demande est de 116 grandissantes. Moi, je le vois, là, je tombe dans ma cinquième année à titre de président. À chaque année, on est obligé de penser, parce que la demande est de plus en plus grande. Et moi, qu'est-ce qui me sidère totalement et qui vient me chercher beaucoup en tant qu'être humain, c'est la clientèle est de plus en plus jeune. Et ça, je pense que la tendance n'irait pas par l'autre bord, et surtout cette année, avec la pandémie, les jeunes, on s'aperçoit que les jeunes sont de plus en plus en détresse et de plus en plus jeunes aussi. Et ça, là, c'est vraiment, moi, j'en reviens pas.
Okay.
Tant que père de famille et papy, trois fois, je suis très interpellé par ça.
Ce sont combien d'employés, la traversée?
Oh, mon doux, Marilyn pourrait vous dire plus, hein, mais on parle entre 10 et 15 certains d'intervenants de toutes sortes. Là, le chiffre exact, évidemment, ça demande une gestion énorme. Il y a quand même un petit roulement de personnel. Fait que cette donnée-là, comme moi, je suis pas dans la gestion
quotidienne.
À tous les jours quotidienne. Ouais. Il y a des choses, je peux me tromper de deux.
OK. OK, une autre question, juste pour mettre la table. On va creuser ça tantôt avec Marie-Hélène et Francis. Centre de crise et de prévention du suicide, ça évoque deux dimensions, crise et prévention. Comment se charge-t-on à la traversée de prévenir le suicide et comment se charge-t-on de gérer les crises?
Bien, la gestion de la crise, déjà là, en partant, c'est quand on a un signalement, ben, on parle d'une crise en partant, donc c'est soit... qu'on reçoit, ça peut être l'hôpital qui nous appelle, puis une personne qui est en détresse, puis on l'amène à notre centre d'intervention et tout, puis il y a des signalements et tout. Et la prévention est surtout aussi au niveau des suivis, parce que quand même, on a des intervenants et des personnes à l'interne qui vont faire des suivis avec les personnes qui ont eu besoin de nos services. Parce que c'est bien beau, là, OK, je me ramasse là un soir parce que là, je suis en crise et tout, mais il y a une suite à ça. Il faut faire un suivi, s'assurer que les personnes aillent bien après. Et aussi, quand on parle de volet de prévention, bien, on a quand même des intervenants à l'occasion. On va faire pas nécessairement des portes ouvertes, mais on va faire des événements pour aller discuter de ça, surtout dans les écoles, pour justement prévenir, qu'ils sachent qu'il y a une oreille qui peuvent se fier. Souvent, les jeunes, ils vont se parler entre eux autres, mais la dernière personne qui va être au courant qu'ils vont pas bien, c'est des parents. Ça, c'est normal, ça a toujours été comme ça. T'as tendance à parler avec tes amis. Et souvent, les personnes qui vont pas bien, n'en parlent de moins en moins. Les personnes qui parlent, ça va bien. Ils sont déprimés, mais il y a toujours un moyen d'avoir un contact avec eux autres et savoir ce qu'ils font. Mais les jeunes qui ne parlent pas, ben, il faut aller les chercher. Fait que c'est le niveau prévention, c'est surtout ça. Les intervenants font un job super avec ça.
D'accord.
On va faire des rencontres dans les écoles, des choses comme ça. Donc,
on a beau dire...
Voilà, très large.
OK, on a beau dire, là, répéter, en faire un beau slogan, que parler du suicide sauve des vies. Écoute, c'est encore un sujet pas mal tabou, non? Quand vous apprenez à quelqu'un là que vous présidez un centre de crise et de prévention du suicide, quelqu'un qui ne le sait pas encore, à quelle réaction vous avez droit? Qu'est-ce qu'on vous demande quand vous dites ça à quelqu'un? Moi, je suis président du CA d'un centre de prévention et de crise, là.
On pose souvent des questions. Souvent, on me demande comment ça fonctionne et tout. Et... J'ai plus tendance à leur parler de le rôle qu'on a en tant que CA, de bien assister la directrice générale à aller chercher les outils ou l'aider à faire son travail. Et en même temps, être au courant de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la traversée à vie et tout. Et en même temps, on a le droit à des statistiques complètement... moi, je vous dis, ça les statistiques me renversent à chaque année, j'en reviens pas.
J'en ai une devant moi, Pierre. J'en ai une devant moi. Il y a eu 1054 suicides au Québec en 2018. C'est la dernière année pour laquelle on a des statistiques.
Oui.
C'est beaucoup.
C'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est seulement ceux qui ont passé à l'acte. Mais combien ont été traités pour un épisode de santé mentale? Moi, juste dans mon entourage... et c'est drôle, c'est un peu en complément à la question que vous posiez avant, c'est maintenant que le monde, de plus en plus de mes amis ou des personnes savent l'implication que j'ai avec la traversée, ben, ils ont tendance à m'en parler plus de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et je suis encore très surpris d'amis qui me disent, ouais, Pierre, j'aime bien ça, quand je te lève mon chapeau parce que moi, j'ai passé par là. Quoi? Qu'est-ce qui t'a passé par là? Oui, il y a 6-7 ans, là, j'ai eu mon divorce, puis là, ben, c'est que je voulais en finir, puis j'ai consulté, ça me fait du bien, j'ai des crises d'angoisse, je suis médicamenté, mais écoute, le nombre de personnes qui s'ouvrent à moi face à ça, juste à savoir que je suis là-dedans, on dirait que ça... Et là, je réalise que tellement de monde qui sont dans cette situation-là, j'en reviens pas. C'est très présent autour de nous. On n'a pas l'idée.
Compliment, Pierre Bisson. Compliment pour votre implication à la traversée. Merci d'avoir parlé du suicide avec nous pour sauver des vies. Merci, M. Bisson.
Ben, ça me fait plaisir et je vous souhaite bonne journée.
Et on continue de briser ce tabou avec d'autres invités immédiatement après la pause.
Bon, qu'est-ce que je pourrais bien préparer pour le prochain repas?
Vous êtes fatigué de préparer tous vos repas et vous aimeriez vous gâter un peu? Voyez la liste des restaurants de la région qui offrent un service de commande à emporter et ou de livraison durant la période de fermeture des salles à manger sur la page Facebook de CJSO ou sur cjso.ca. Encouragez les restaurateurs de chez nous. Une invitation de CJSO et du magazine Bravo.
Tout comme pour l'émission On a des choses à dire, le magazine Contact Affaires vous fait connaître nos entrepreneurs, les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis plus de 20 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications, à CJSO 101.7 et en ligne sur contactaffaires.com.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Mmh.
FM.
De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Se déroule jusqu'à samedi la 31e semaine nationale de prévention du suicide sous le thème « Parler du suicide sauve des vies ». C'est ce que nous participons à faire, espérons-nous, ce midi, sauver des vies, car on a des choses à dire sur le suicide. Louise Niquette, bon midi.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Niquette. Vous êtes endeuillée de votre fils qui s'est enlevé la vie. Il doit s'agir d'un souvenir terrible, là, très douloureux. Où est-ce que vous trouvez la force pour accepter d'en parler? Et pourquoi croyez-vous qu'il faille en parler, en effet, du suicide?
C'est que quand je revois, moi, c'est arrivé le 19 juin 2005. Donc, on a beau dire, souvent on dit, on ne veut pas le croire, mais souvent on dit... le temps, mais je crois aussi, quand on nous le dit que ça arrive, que ça vient d'arriver, on ne veut pas entendre ça, mais je crois que oui. Dans toutes nos étapes qu'on a de deuil à traverser, on arrive à une étape qui est l'acceptation, mais on a les dures étapes à traverser.
Ouais. Est-ce que vous l'aviez vu venir, ce geste-là? Le redoutiez-vous, ce geste-là?
Non, du tout. C'était un petit garçon, mon Dieu. Toujours de bonne humeur. Non, jamais. Nous, quand c'est arrivé, j'ai dit le 19 juin, mais il s'est enlevé la vie. Bon, on l'a trouvé, on l'a cherché 3 jours. Voilà. Il s'est isolé pour aller faire son geste. Et puis, moi...
Quel âge avait-il, votre fils?
23.
Combien?
23.
23 ans?
Oui.
D'accord.
Et puis, mon Dieu, c'est là que, en tout cas, je vais en arriver à ça, qu'il faut demander de l'aide pour comprendre, parce que tu ne peux pas, tu dis, un petit gars souriant, et puis, ce qui m'avait frappé aussi, je saute du coq à l'âne un peu, excusez-moi, il y avait un gros poster au Centre de prévention du suicide, et puis c'était 5 jeunes. Moi, ça m'avait frappé. Et dans ces 5 jeunes, il y en a un qui est entouré. C'était le plus souriant des 5.
Ah oui.
Donc, souvent, on voit pas il nous donne pas de signes. Et lui, c'était situationnel. C'était ce que le psychologue m'a dit. J'avais à en venir aussi à dire de demander de l'aide, ne pas hésiter. C'est qu'il savait pas lui-même cette journée-là qu'il était pour se suicider. C'était son image. Il venait d'avoir un bel emploi engagé, ça faisait 15 jours, de décevoir. Il s'était fait arrêter un après-balle. Puis il a dû remettre ses clés. Puis là, il s'est revenu à la maison, tout seul. Il avait dit au policier, non, je suis correct, je m'en retourne chez moi. Puis là, il s'est en allé avec l'auto de son père. Son père était décédé l'année d'avant. Puis il a pris l'auto de son père qui avait hérité, et puis il s'est en allé éloigné dans un champ près d'un bois, puis c'est là qu'il a fait son...
Poser son geste.
Oui.
Est-ce qu'on en veut à quelqu'un qui s'est enlevé la vie? Est-ce qu'on s'en veut à soi? Est-ce qu'on est en quête perpétuelle d'explication, toujours en train de se demander ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu dire, ce que la personne aurait pu faire, pu dire?
Oui, et puis moi, c'était... qui n'avait pas le droit. C'est la colère, là. L'étape de la colère au début, c'est que non, c'est pas arrivé, je l'ai pas vu, j'ai pas pu le voir. Puis ça se pouvait pas, là. J'entendais une moto, il y avait une moto, je me disais, bon, c'est Alexandre qui arrive. Non, c'est pas ça. Et puis, oui, comme vous dites, ensuite, c'est la culpabilité. J'ai dit quelque chose que, là, on revoit depuis sa naissance. Bon, mon Dieu. Puis là, je me dis, je pouvais pas l'aimer plus que ça. J'en arrive à... Moi, la culpabilité, c'est comme si je me disais je pouvais pas l'aimer plus que ça, puis j'en ai presque, je peux pas dire que je l'ai pas eu, mais tu sais, je me dis, c'est des signes que j'ai pas vus, puis comme ma fille me disait, du moment, on a juste les beaux souvenirs d'Alexandre. Mais ensuite, il y a la colère contre Dieu. Moi, j'en avais contre les policiers qui auraient dû l'accompagner pour s'emmener à la maison. Finalement, contre lui, je me disais, tu n'avais pas le droit, Alexandre. Mmh. Tu étais une belle personne, tu avais tout. Puis pas de pardon. Je ne vois pas le... Non. Mais ce qui m'aidait, c'est que c'est un petit peu paradoxal. Je lui écrivais. Moi, c'était de faire son journal. Puis je lui écrivais, c'est comme s'il était encore là. Je lui parlais, puis là, je lui disais, tu n'avais pas le droit à la colère. Puis je finissais toujours par, je t'aime, mon fils.
Mmh. C'était comme... C'est touchant ce que vous nous racontez. Quel conseil vous avez à donner à des gens endeuillés comme vous? La traversée aide les familles endeuillées, hein?
Si vous saviez, moi, j'allais là vraiment de reculons. C'est ma fille qui dit, maman, je suis allée, il y a un centre pour... Puis, tu devais, puis là, je disais, non, moi, rencontrer, je veux pas. Puis, elle disait, j'étais inscrite. Elle s'était rendue, dans le temps, c'était Ginette Barrette. Elle m'avait inscrite, et puis je suis arrivée. Puis là, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, je vais y aller, mais moi, je ne parlerai pas. Mais si vous saviez, je conseille à tous ceux qui vivent ces moments-là, qui écoutent, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire dans ces moments-là. Excusez, j'ai la voix un peu.
Vous avez aidé du monde, Mme Niquette, ce midi, en nous partageant votre expérience. J'en suis persuadé.
Quand je veux leur conseiller parce qu'ils nous enveloppent leur empathie, ils nous donnent des outils, et puis finalement, on se dit qu'on ne parlera pas, mais c'est, savez-vous, dans cette situation, on se sent seul. Puis là, on se dit, il y en a d'autres. Puis là, on écoute chaque histoire, puis finalement, on a une complicité avec l'intervenante, et puis on réalise que on peut s'en sortir. Et moi, c'est le plus beau. Je me dis, il faut demander, il faut y aller. Il faut demander de l'aide, pour s'en sortir.
C'est un beau témoignage. Merci beaucoup, Louise Niquette, de nous avoir partagé votre vécu. Merci beaucoup, Mme Niquette.
J'ai aidé quelqu'un, c'était mon but.
Merci, madame.
Merci.
Denis Perron, bon midi.
Oui, bonjour, M. Rochon.
Vous avez vécu, Denis, comme Mme Niquette, le drame de perdre un proche par suicide. Dans votre cas, c'est votre frère.
Ouais. C'est mon frère qui était 4 ans plus jeune que moi. Oui, ça fait un petit bout de temps. Ça fait longtemps même. C'est arrivé en 1989. Mais on n'oublie pas.
Puis vous avez, comme Mme Niquette, estimé qu'il faut parler du suicide. C'est pour ça que vous nous racontez le drame. Là. Vous pensez qu'en effet, le slogan dit vrai, parler du suicide sauve des vies?
Oui, parce que moi, contrairement à madame, j'ai attendu pas mal longtemps. J'étais quelqu'un de renfermé, je gardais ça pour moi, et puis j'en parlais pas. Jusqu'à là, peut-être 5 ans, 6 ans maximum, là, j'ai commencé à en parler, ça faisait du bien. Sauf que il y a des endroits que j'appelais puis on me disait « Ah, ça fait trop longtemps, non, on peut pas vous aider. » Et puis, quelqu'un m'a référé à la traversée. Et puis là, ça a débloqué beaucoup de choses, là, aller rencontrer l'intervenante. Et ça m'a beaucoup aidé.
Vous,
d'en parler.
Ouais. Vous, Denis, est-ce que vous l'aviez vu venir, l'irréparable geste de votre frère?
Oui, peut-être un peu, parce que mon frère, ce qui est arrivé, lui, c'est qu'il était tombé dans la drogue beaucoup. Et puis, bien sûr que j'étais pas en accord avec ça. Et puis qu'on se chicanait souvent. D'ailleurs, le dernier soir que je l'ai vu, on avait eu un souper en famille, et puis on s'était chicané par rapport à ça. Et puis, on est partis en maudit, les deux, chacun de notre bord. Et puis... dans la fin de semaine, ben c'est là que ça s'est fait, et puis moi, je l'ai su le lundi soir.
Il faut pour prendre la décision là, d'en finir, là, être rendu, j'imagine, au bout du rouleau, ne plus voir de lumière pantoute au bout du tunnel, estimer que notre vie ne mérite pas ou ne méritera plus d'être vécue. Je suppose que vous avez beaucoup réfléchi à ce qui fait naître des pensées suicidaires.
Hein? J'ai réfléchi, oui. Tu sais, on se pose la question, est-ce qu'il faut être fort ou est-ce qu'il faut être mou pour faire des gestes comme ça, je pense que c'est les deux en même temps. Pour eux, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de... Tu sais, c'est la solution définitive, mais il y a des solutions, un problème temporaire, là. Mais c'est ça, ils voient plus la lumière au bout du tunnel, savait plus comment s'en sortir. Il avait déjà fait une thérapie. Il était retombé. Donc, c'est pas facile. Puis, j'ai gardé ça longtemps pour moi, mais c'est ça qui est, que dans mon cas, que j'ai trouvé ça très dur. Puis, moi, je dis pas le mot accepter parce que j'accepterai jamais un geste comme ça. Mais c'est d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à contrôler ça. Puis surtout de, ben c'est ça, d'en parler pour peut-être aider quelqu'un d'autre.
La traversée vous a aidé, vous le disiez, là, à faire votre deuil de votre frère, à vous reconstruire. Comment vous a-t-on aidé? C'est quoi la recette de la traversée? Qui trouve-t-on qui puisse transformer notre existence?
Oui, ben l'intervenante, moi j'avais, si je peux la nommer, là, c'est Marie-Pierre, mon intervenante. Ils ont l'écoute, ils ont beaucoup d'écoute et ils nous écoutent. Ils nous disent pas exactement quoi faire, mais ils donnent des suggestions. C'est sûr qu'on a des petits travaux à faire sur nous, des choses à réfléchir entre les rencontres. Puis ça m'a ouvert les yeux, ça m'a comment je peux dire ça? J'ai comme apprivoisé cette chose-là, le suicide, mais comme je dis, c'est j'arrive plus mieux à en vivre maintenant qu'avant. Avant, j'étais pas capable d'en parler du tout. Je partais à pleurer tout de suite, puis j'étais tout croche. Fait que c'est ça, c'est de pas, j'ai de la misère avec le mot accepter, mais c'est ça, d'apprivoiser. Le suicide, puis d'apprendre à mieux vivre avec. Mais on n'oublie jamais, tu sais. À tous les jours, j'y pense.
T'sais, on dit ça qu'il faut en parler, puis en même temps, on entend aussi l'inverse. On entend aussi qu'un suicide très médiatisé, là, d'une personne connue qui est adulée, peut en entraîner d'autres. C'est compliqué, hein?
Oui. C'est très compliqué, et puis c'est pas facile non plus, parce que moi, je l'ai vécu, là, je n'ai pas parlé pendant une vingtaine d'années, là. J'ai gardé ça pour moi, je n'ai pas parlé. Mais en dedans, là, je filais toute croche, j'étais pas bien. J'étais pas bien avec moi, j'étais pas bien avec les autres, tu sais, parce que ça me travaillait tout le temps. Puis d'en parler, ça l'a comme exhumé ça. Ça l'a fait du bien. Puis d'un autre côté, comme vous dites, j'ai un cousin aussi qui s'est enlevé la vie. Et puis lui, il y avait d'autres problèmes. C'était pas des problèmes de drogue. Sauf que lui, j'avais su que avant de faire le geste, il a écouté tout ce que Robin Williams avait fait les derniers temps, parce que Robin Williams, ça faisait pas longtemps à ce moment-là qu'il s'est enlevé la vie aussi. Donc c'est ça, c'est. Mais moi, je crois que oui, il faut en parler pour.
Ben, vous l'avez très bien fait, vous en avez très bien parlé. Denis, merci à votre tour de nous avoir partagé une partie de votre vie aujourd'hui, dans l'espoir que ça fasse jaillir une étincelle là, chez des gens pour lesquels la vie est peut-être actuellement affreusement sombre.
C'est ça. Il y a aussi le fait que si les gens qui s'enlèvent la vie savaient ce que ça fait aux personnes qui les entourent, aux personnes qui les aiment, ben peut-être qu'ils réfléchiraient avant de faire le geste, parce que ça brise. Oui, cette vie-là est finie, est partie, mais les gens qui restent alentour, ils en ont pour très longtemps à penser puis à se guérir de ça.
Merci beaucoup, Denis Perron. Merci.
Bienvenue.
Merci. Après la pause, Francis Saint-Martin Rochon et Marilyn Saint-Arnaud.
Tout comme pour l'émission On a des choses à dire, le magazine Contact Affaires vous fait connaître nos entrepreneurs, les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis plus de 20 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications, à CJSO 101.7 et en ligne sur contactaffaires.com.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Chez Meubles André Beaulieu, nous tenons à vous rappeler que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation particulièrement difficile en vous offrant un service d'urgence avec livraison gratuite pour tous vos besoins. Qu'il s'agisse de réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, laveuses ou sécheuses, contactez-nous sans tarder au 742-2708 ou encore par messagerie Facebook. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour de plus amples renseignements et suivre nos mises à jour quotidiennes.
Pour aujourd'hui dans le Grand Sorel Tracy, dégagé pour la plus grande partie de la journée, maximum près de zéro. On devrait ressentir avec le refroidissement éolien près de moins 7. Pour ce soir et cette nuit, ça reste dégagé, minimum près de moins 8 et on ressentira moins 12. Demain, de la neige, de la pluie, accumulation aux alentours de 2 cm.
101.7 FM.
De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Francis Saint-Martin Rochon est certainement la plus grande fierté de son père que personne ne connaît plus intimement que moi-même. Bon midi, Francis.
Bon midi.
Là, je vais reprendre une distance journalistique et je pense que je vais te vouvoyer pour m'aider.
Oui, oui, c'était quand même une belle introduction. Par
c'était bien, hein? Il y a longtemps que vous êtes intervenant à la traversée, Francis Saint-Martin Rochon?
Ça fait maintenant 2 ans et demi, là, ça va faire 3 ans à l'été.
Et vous faisiez quoi avant la traversée?
Je travaillais en maison de transition, donc j'étais animateur clinique. Dans le fond, c'était des détenus là, de sentencés de plus de 2 ans. Une fois qu'ils sont en maison de transition, évidemment, ce sont des résidents et on les aidait à reprendre leur vie, finalement, qu'ils puissent retrouver une vie en communauté.
Il faut avoir des nerfs solides, j'imagine, pour travailler dans un centre de crise.
Oui, effectivement. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais habituellement, les intervenants qui sont ici, je pense qu'ils ont la personnalité, aussi la formation pour ça. À un moment donné, on finit qu'on... c'est sûr qu'on se crée une carapace, mais si on est ici, c'est pour aider les gens. Donc, tous les intervenantes, les intervenants qui sont ici, c'est... je pense qu'on a tous le côté empathique, où on est capable de comprendre, de se mettre un peu à la place du client, mais en gardant une distance, là, pour rester dans l'empathie, effectivement.
Vous êtes au téléphone combien d'heures par jour, puis combien de jours par semaine?
Bien, c'est sûr, comme a dit M. Bisson, c'est une ressource qui est ouverte 24 heures sur 24. On n'a pas des appels là, tout le temps, là, un après l'autre. Mais on fait beaucoup d'interventions téléphoniques aussi en personne. C'est sûr que Mme Saint-Arnaud va pouvoir vous en dire plus, mais je dirais là, en tant qu'intervenant qu'on peut passer la moitié et même plus là, des fois de notre corps de travail en ligne ou à l'intervention.
Est-ce que vous avez...
Le reste du temps, là, on a des notes, des rapports à remplir.
Ouais. Est-ce que vous avez des... je sais pas comment appeler ça, je vais appeler ça des abonnés, des gens pour lesquels vous êtes une sorte de rempart contre la solitude?
Oui, oui, effectivement. C'est sûr qu'il y a des lignes d'écoute qui existent, mais en plus, là, avec la pandémie, ce que ça a créé, c'est qu'il y a des gens qui vivent de la solitude, mais qui se transforment beaucoup en détresse psychologique. On va les accompagner, ces gens-là, puis... En fait, tout le monde qui appelle, c'est sûr qu'on peut les référer des fois à des lignes d'écoute, dépendamment du niveau de détresse, mais on va prendre le temps d'écouter tout le monde, on va les référer aux bons endroits. Et bien sûr, on a notre clientèle, on va dire, un peu plus quotidienne. Là, on connaît les gens, on finit par les connaître et apprendre beaucoup sur eux.
On dit quoi à une personne qui n'est pas juste down, là, qui est décidée à en finir avec la vie? On lui dit quoi?
Bien, tu sais, on dit qu'il y a toujours des solutions. En fait, la personne, l'image qu'on prend souvent, c'est qu'une personne qui a des idées suicidaires et qui a vraiment pu, elle pense qu'en fait, qu'il n'y a plus de solution, c'est qu'elle est dans le coin. C'est comme si elle était dans le coin d'un mur. Puis elle voit seulement le coin du mur. Nous, qu'est-ce qu'on l'aide à faire? C'est toujours à prendre un pas de recul pour pouvoir qu'elle puisse regarder un peu autour d'elle puis qu'elle voit qu'il existe autre chose que le coin du mur. Fait que on aide à faire prendre cette distance-là à travers les raisons de vivre de la personne, qu'est-ce qu'il a déjà allumé dans la vie, chose que des fois elle ne se rappelle plus.
Je faisais le tour des statistiques hier soir. Les hospitalisations pour tentative de suicide chez les adolescents de 15 à 19 ans ont doublé depuis 10 ans au Québec. Est-ce une clientèle qui demande de l'aide chez vous, les 15-19 ans?
Oui, oui, c'est sûr que c'est très préoccupant, là. Encore M. Bisson là, qui l'a dit, je l'écoutais tantôt, mais oui, c'est très préoccupant la montée. On a vu, ma directrice me disait que juste dans le dernier mois, il y a eu encore une hausse de 8% d'appels téléphoniques et de demandes d'aide chez les jeunes, là, même en bas de 18 ans, je crois. Les enfants aussi, là, tu sais, à partir de 7-8 ans des fois, donc c'est très inquiétant. On pense que la pandémie n'a pas aidé, mais forcément, il y a d'autres facteurs là, qu'on ne peut pas tout comprendre là, nécessairement de ça. Mais il y a des études qui sont faites, puis on sait que c'est en augmentation, oui.
Je continue à vous faire part de mes lectures d'hier soir. Dans le cas d'un suicide sur 5, 1 sur 5, le taux d'alcoolémie dans le sang dépassait le seuil des 80 mg d'alcool. C'est les coronaires là, qui ont produit cette étude-là. Est-ce que l'alcool accentue l'impulsivité? Est-ce que c'est ça la raison?
Bien, tu sais, en fait, c'est un mélange. Hein. C'est que l'alcool peut accentuer l'impulsivité, mais souvent, la personne consomme autant, se met à consommer lorsqu'elle ne va pas bien, lorsque sa vie, elle a des difficultés. Donc, elle se met à consommer, et là, ça va faire comme un cocktail explosif. L'alcool, c'est un dépresseur. Donc, impulsivité. Et là, ben oui, il y a des tentatives de suicide qui peuvent arriver dans ces moments-là. Mais c'est comme un cercle vicieux, on peut dire.
On peut tous jouer un rôle actif en prévention du suicide. Il ne s'agit pas d'être intervenant dans un centre de prévention et de crise. Monsieur, madame, tout le monde peut jouer un rôle.
Oui, puis même que c'est ça le plus important. Hein. C'est sûr que les professionnels sont là pour ça, mais des membres de la famille qui puissent avoir l'oreille tendue, finalement, de juste voir quelqu'un qui va pas bien des fois, puis lui demander qu'est-ce qui va pas, juste de lui poser des questions, des fois même, as-tu des idées suicidaires, hein? C'est bien d'y aller directement sur le point sensible, ça porte les gens à vouloir en parler. Donc oui, c'est pour ça le slogan « Parler du suicide sauve des vies », c'est que c'est en parlant que les gens vont peut-être, après ça, aller demander de l'aide. Donc, c'est la première chose à faire. Je pense que les gens en société sont encore plus importants s'il y a quelque chose que les professionnels dans le système.
Pensez-vous que monsieur, madame, tout le monde, pour reprendre l'expression que j'utilisais, est conscient de l'ampleur du problème?
Je pense qu'ils sont quand même au courant. Là, on en entend quand même beaucoup parler avec les campagnes au niveau de la santé mentale. Mais de réaliser, moi, je pense que c'est l'expérience un peu d'intervenant qui peut me faire dire ça. Puis mes collègues qui seraient d'accord avec moi, je pense, c'est que on remarque vraiment qu'il y a beaucoup de monde. Puis il y a aussi du monde qui ne parle pas, puis qui ont quand même de la souffrance interne. Donc, c'est tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de monde qu'une fois dans leur vie, ont déjà eu des idées en disant « si j'étais plus là, ce serait peut-être moins compliqué, exemple. » Mais c'est faux. Tu sais, c'est une solution temporaire, une solution permanente à un problème permanent. Comment on dit ça?
Une solution permanente à un problème temporaire?
Oui, excusez, là, j'ai inversé les deux. Mais oui, c'est vraiment ça que je voulais dire.
Merci beaucoup, Francis Saint-Martin-Rochon. On va parler à votre boss maintenant, la directrice générale du Centre de crise et de prévention du suicide de la Traversée. Merci.
Parfait, on va écouter ça. Merci.
Marilyn Saint-Arnaud, bon midi.
Bon midi.
Il y a combien d'intervenants et d'intervenantes comme Francis chez vous à la Traversée?
On est 15 intervenants. En fait, ils sont 15. On a une coordonnatrice clinique et formatrice et deux à l'administration. Donc, une bonne quinzaine d'intervenants qui assurent 7 jours sur 7, 365 jours par année la ligne d'intervention, oui.
Quelle qualité ça prend pour faire ce job-là?
Ah, mon dos. Beaucoup de patience, de l'empathie, comme le disait Francis. Une capacité aussi d'aller vers l'autre, l'altruisme. Puis c'est ça, beaucoup de calme, de maîtrise de soi. Ça s'apprend aussi avec l'expérience. c'est vraiment de l'altruisme pur, je dirais, moi.
Ouais. La traversée, c'est un service d'aide par téléphone, mais c'est aussi, c'est peut-être moins connu cet aspect-là, un toit pour les personnes en crise.
Oui, absolument. Ça peut être des crises psychosociales, rupture amoureuse, chicane avec un colocataire, crise, familiale ou crise suicidaire, bien sûr, oui. Donc, on accueille les gens pour une courte période et puis ce qu'on fait, nous, on fait une intervention qui se veut rapide, en fait, qui se veut pour résorber, en fait, la crise qui est vécue. Puis on fait en sorte que les gens travaillent avec nous pour rebondir, là, justement, à trouver des solutions, faire les plus petits pas possibles, finalement, qu'il faut aborder, en fait, pour se sentir mieux. Puis je vous dirais que ça fonctionne.
Il y a des rencontres...
Encourageant.
Oui, il y a des rencontres physiques à la traversée en temps normal. Là, je suis conscient que la COVID a dû bouleverser vos façons de faire aussi, mais je pense notamment aux familles endeuillées. Il y a des rencontres pour elles?
Bien, en fait, ça fait un petit temps qu'on n'a pas eu les groupes d'endeuillés par manque de personnel formé. Ça prend vraiment des gens qui ont les aptitudes pour accompagner des gens qui ont vécu ce drame-là. Mais là, on y travaille. On va peut-être annoncer sur Facebook bientôt sur notre page qu'il y aura des ateliers interactifs pour les personnes endeuillées. Fait que c'est bientôt remis sur pied. On avait des groupes aussi pour les hommes. Ça, c'est pas encore possible de le faire, mais on y travaille. On essaie de trouver la possibilité de le faire avec tous les mandats qu'on a à faire chaque jour.
Je comprends. Une tentative de suicide, Marilyn, une tentative de suicide, doit-elle en faire craindre d'autres chez le même individu? Est-ce qu'il y a un suivi des personnes dites suicidaires?
Oui, absolument, parce que la tentative de suicide est considérée comme un risque supplémentaire, en fait. Donc, les personnes qui viennent de vivre cet événement-là, qui ont tenté à mettre fin à leur vie, nous sont référées souvent, ou très, très souvent, tout le temps, je pense, je pourrais dire, par le 6, par l'hôpital, pour qu'on puisse avoir au moins un contact téléphonique avec ces personnes-là. Puis nous, on leur offre justement de l'accompagnement pendant quelques semaines. C'est souvent en personne. Nous, nos services sont maintenus. Nos locaux nous permettent d'accueillir les gens en personne. Ça peut se faire au téléphone. Pour justement cette période-là fragile qui reste suite à ces événements-là, parce que c'est pas de tout repos, là.
Mais non, évidemment.
Oui.
Vous agissez aussi à la traversée comme un centre de référence. Vous êtes un maillon de la chaîne de prévention du suicide?
Oui, absolument. C'est bien dit, ça, Sylvain.
Merci.
Nous, on travaille beaucoup en collaboration avec beaucoup de partenaires communautaires, publics. Et puis, c'est comme ça qu'on fait face qu'on fait de la prévention du suicide, parce que souvent, en prévention, ben c'est en ayant des outils, des ressources qui sont disponibles dans notre milieu qui fait en sorte que tout s'améliore peut-être. Il y a des changements qui sont visibles, puis ça fait beaucoup de bien aux gens, là. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, autant à l'interne comme nous, comme collègues, mais d'équipe en termes de collègues partenaires sur le territoire et même plus largement au Québec avec nos regroupements. On travaille très, très fort pour trouver des nouvelles façons d'aider. D'ailleurs, je voulais en parler, il y a un nouveau service numérique, en fait. Les gens peuvent clavarder pour demander de l'aide. C'est le www.suicide.ca. Donc ça, c'est une nouvelle façon d'aider qui va peut-être rejoindre les jeunes davantage aussi, qui sont souvent plus habiles que nos aînés là, à travailler sur à clavarder.
Oui.
Donc, c'est ça, on travaille fort en recherche aussi pour améliorer nos bonnes pratiques en prévention suicide.
On est déjà rendu au bout de cette émission passionnante. Un numéro de téléphone en terminant, Marilyn Saint-Arnaud?
Sûr, alors notre numéro local, c'est le 450-746-0303.
Merci beaucoup, Marilyn.
Simplement pour de l'information aussi, hein. C'est pas juste pour intervention, vous pouvez appeler pour avoir de l'information.
Excellent, merci Marilyn Saint-Arnaud.
Merci Sylvain, bon dîner.
Merci à l'ensemble de mes invités, Pierre Bisson, Louise Niquette, Denis Perron et Francis Saint-Martin-Rochon. Jean Lemay sera de retour à la barre de cette émission la semaine prochaine. Je vous retrouve dans le cadre de nos bulletins de nouvelles et mardi à la Tribune. Bon après-midi.